Merci beaucoup Frédéric. On va faire réagir nos deux invités, Hélène Bekmézian qui est journaliste au Monde.fr et le politologue Pascal Perrino. Pascal Perrino, sur cette volonté donc de moraliser la vie politique, on en parle beaucoup. Il y a eu différentes étapes. La dernière étape étant donc la démission des ministres MoDem, dont celle de François Bayrou. Votre point de vue là-dessus ?
Écoutez, ce processus n'est pas un processus nouveau. C'est un processus engagé depuis longtemps, si l'on veut... Regardez, c'est à partir du gouvernement Rocard, en effet, qu'on est rentré dans un processus à la fois sous la gauche puis sous la droite de ce qu'on appelle aujourd'hui de manière un peu impropre le mouvement de moralisation de la vie publique. Là, on est en train d'atteindre, et ça a commencé pendant la campagne présidentielle, presque un point d'orgue. Le pouvoir judiciaire en tant que tel devient un véritable acteur politique. C'est peut-être dû au fait de ce processus de judiciarisation, comme on dit, de la vie politique. Mais on voit les aspects positifs, mais on peut en voir les effets tout à fait pervers. C'était ce que Alain Gérard Slama, il y a de nombreuses années, appelait un véritable angélisme exterminateur. Parce qu'on voit qu'en quelques semaines, en effet, les têtes tombent les unes après les autres. Et le processus n'est peut-être pas terminé. Et peut constituer d'ailleurs une limite à l'arrivée d'hommes et de femmes de la société civile, de l'entreprise, dans le personnel politique. Parce qu'on sait très bien que des dirigeants d'entreprise, très vite, eh bien voilà, on va parler de conflits d'intérêts. Donc ça va peut-être être un des éléments de non-renouvellement de la classe politique. Et on va se retourner, eh bien de manière, pour le nouveau monde, ça sera un paradoxe, de manière très traditionnelle vers, eh bien, le profil de la haute administration traditionnelle.
Vous dites pouvoir judiciaire, mais là, en l'occurrence, c'est même plutôt le pouvoir de l'opinion, le tribunal de l'opinion.
Oui, les deux s'alimentent parce que, en effet, le pouvoir d'opinion déclenche très souvent le processus. On l'avait vu, bien sûr, avec l'affaire Fillon, mais ensuite, c'est le pouvoir judiciaire qui devient un acteur en tant que tel.
Et à la fois, ce qui est quand même assez paradoxal dans cette situation, Hélène Bekmézian, c'est que beaucoup de ces femmes et de ces hommes qui ont été accusés d'avoir commis différentes turpitudes qui vont donc des conflits d'intérêts aux actes anormaux de gestion ont été réélus, parfois avec une majorité confortable à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même assez paradoxal, même si ça n'est pas la première fois, on avait même parlé de prime à la casserole.
Oui, c'est un peu la limite effectivement de l'exercice. Quand on voit dans le passé des hommes politiques tels que Patrick Balkany réélus très largement, on voit bien aussi ce qui est là tout le paradoxe entre effectivement l'opinion publique réclame plus d'intégrité, plus d'honnêteté et en même temps ne sanctionne pas par les urnes ceux qui seraient le plus soupçonnés. Donc ça pose toute une difficulté. Après, pour rebondir ce que disait Pascal Perrino sur le fait qu'effectivement des conflits d'intérêts risquent d'apparaître, je pense quand même que ce sera une différence dans le sens où ce qui aujourd'hui n'est vraiment plus toléré, c'est quand de l'argent public est en jeu, quand on parle d'emplois fictifs qui auraient été financés par l'argent du Parlement européen ou par l'argent des contribuables français. C'est là où vraiment ça devient très difficile à supporter pour l'opinion publique.
Alors là encore, la chose pourrait être à nuancer, puisque dans le cas de Richard Ferrand qui a été réélu largement, alors s'agissait-il d'argent public ? En tout cas, oui. ce que l'on voit, c'est que le montage immobilier qu'il avait fait était un montage immobilier qui pourrait passer pour un acte anormal de gestion. Donc même si ça n'est pas une qualification pénale, c'est malgré tout quelque chose d'un peu embêtant. Mais au-delà de ça, lorsqu'on lit par exemple l'ouvrage que vous avez consacré à l'Assemblée nationale, Hélène Bekmézian, on se rend compte que le fait de travailler avec son conjoint, avec un membre de sa famille, et un cas qui, jadis, en tout cas dans la précédente Assemblée nationale, concernait pratiquement un quart des membres de l'Assemblée nationale, ce qui veut dire qu'il va y avoir à minima le renouvellement d'une partie de la population, alors pas des élus, mais en tout cas de ceux qui travaillaient avec eux.
Oui, bien sûr, effectivement, c'est d'ailleurs un des gros enjeux là de toute cette nouvelle majorité, c'est de trouver des collaborateurs, de savoir où les trouver, de savoir comment les trouver, quel type, est-ce qu'on préfère des profils plus techniques, est-ce qu'on préfère des profils plus politiques. Donc tout ça a beaucoup d'enjeux, effectivement, et il faudra voir si Ce qui est intéressant, en fait, de voir cette histoire des emplois familiaux, ça montre, en fait, le manque de transparence et le manque de clarté sur la gestion de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement aller vers un système comme le Parlement européen où les choses sont claires. Il est interdit d'employer un membre de sa famille. Point. Et on voit bien que c'est aussi ce qui pose problème au niveau des salaires, des indemnités des députés. C'est que ça n'est pas clair. C'est qu'on ne sait pas exactement combien ils touchent. C'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est contrôlé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc tout ça mérite beaucoup de transparence, de clarté et de réglementation.
Frédéric Seyss.
Oui, cette transparence en plus peut avoir un très bon côté préventif, c'est-à-dire que pour l'avenir, les députés qui se seront davantage sur la sellette pour ce genre de dépenses, qui sauront qu'il y a cette pression, comme vous le disiez, et de l'opinion et des médias et de l'institution judiciaire, hésiteront davantage à franchir le guet et à s'adonner à ces pratiques-là, soit malhonnêtes, soit népotiques. En revanche, l'excès que cela peut avoir, c'est qu'on juge avec les lunettes d'aujourd'hui des situations d'il y a 30 ou 20 ans, où pour le coup, ce n'était ni illégal, ni même... c'était
voilà, Même pas perçu comme immoral.
Et ça revient un peu, si vous voulez, à par exemple, donner une amende en 2017 à un conducteur dont le taux d'alcoolémie était excessif. On regarde aujourd'hui à 0,5 g par litre de sang. Je ne suis pas expert en la matière, mais voilà, ça consiste aussi à faire peser des mesures rétrospectivement à des pratiques qui, pour le coup, à l'époque, n'étaient pas illégales, et donc, finalement, dans le bon droit de ceux qui les pratiquaient.
Pascal Perrineau, autre conséquence de cette nouvelle Assemblée, une nouvelle donne politique avec de grosses difficultés pour le Parti Socialiste, des difficultés moindres mais malgré tout réelles pour les Républicains.
Alors en effet, il ne faut pas que cette séquence nous fasse oublier ce qui s'est passé il y a quelques semaines lors de la présidentielle, avec pour la première fois sous la Ve République la quasi-disparition des deux formations politiques qui organisaient la bipolarisation depuis des décennies. La crise, bien sûr, elle est forte à droite, et on le voit dans la genèse apparente de deux groupes pour les Républicains. Donc en effet, ce parti, qui est le parti principal aujourd'hui de l'opposition, eh bien voilà, va être affaibli par le fait qu'il y aura peut-être et peut-être même certainement deux groupes, mais la crise est d'une profondeur phénoménale à gauche. Le Parti Socialiste est menacé. Qui aurait pu imaginer cela, de quasi-disparition, broyé littéralement entre une contestation de la gauche, dont on a vu tout à l'heure avec les propos de Jean-Luc Mélenchon, la virulence, le souci de développer une opposition pas simplement au sein des institutions, mais dans la rue, d'organiser une forme de troisième tour social. Et puis de l'autre côté, en effet, la puissance du macronisme, qui fait que la culture réformiste, au fond, au sein de la gauche, qui a toujours été une réalité au Parti Socialiste, elle est quasi digérée aujourd'hui par le macronisme, et il ne reste plus rien presque au Parti Socialiste. Et puis, troisième élément que l'on a moins vu, c'est la concurrence du Front National. Le Front National, que l'on présente très souvent, à juste titre, comme étant un héritier de l'extrême droite française, a connu une mutation de sa base électorale, d'ailleurs depuis de longues années. Et quand on regarde les 8 députés qui ont été élus, on est frappé de voir tout de même que 5 de ces 8 députés sont élus dans des terres historiquement de gauche, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, au cœur même de la culture de gauche du bassin minier. Et que parmi ces 5 députés, qui sont au fond des députés du vote social du Front National, il y a un ancien député qui a eu un long passé de 15 ans de permanent au Parti communiste et de 36 ans de compagnonnage avec le Parti communiste. Donc on voit bien aussi que le Front National est un des éléments de la crise de la gauche, dans la mesure où c'est l'aspirateur de la base sociale qui, pendant des décennies, avait l'habitude de voter pour les partis de gauche.
Oui, mais alors ça, c'est justement ce que disait Bruno Maigret dans une interview hier au Figaro. Il évoquait la faillite de ce Front National-là. Il disait en substance, ça fonctionne très bien à Hénin-Beaumont, mais ça fonctionne pas ailleurs. Et si ça fonctionne bien à Hénin-Beaumont et pas ailleurs, c'est qu'il va falloir inventer autre chose. Donc il faisait l'éloge de Marine Le Pen pour la dédiabolisation. En revanche, il considérait que celle-ci était aujourd'hui incapable de faire grandir le Front National. Qu'en pensez-vous ?
On comprend très bien Bruno Maigret, parce que c'est déjà là-dessus qu'en 1999, il avait quitté le Front National. Il a toujours été persuadé, comme nombre de cadres du Front National, que l'avenir du Front National, c'est d'être véritablement à la droite de la droite, sur des positions ultra-conservatrices, et un jour d'être un allié des Républicains ou de ce qu'il en resterait. Mais il faut savoir que cette ligne, depuis des décennies, ça fait entre 10 et 15%. Et que le Front National est passé de cela à peu près, de 15%, 15, 16, 17%, à 33% au second tour. C'est sur quelle ligne le Front National a doublé son score électoral, hein. Je vous rappelle que c'est presque 11 millions au second tour. On parlait d'un choc terrible en 2002, c'était 5,5 millions. Donc, pour essayer de comprendre, d'éclairer, eh bien, c'est plutôt la ligne sociale qui a permis au Front National de connaître cette avancée, qui bien sûr n'est pas suffisante pour arriver au pouvoir, parce que reste, que l'on soit sur la ligne ultra-conservatrice ou sur la ligne sociale, reste le problème, qui est un problème majeur pour le Front National, de l'allier. On ne gagne jamais seul sous la Ve République.
Et c'est pour cela que cette ligne était critiquée par Bruno Maigret, parce qu'il se rend bien compte des chiffres que vous annoncez, qui effectivement montrent que le Front National n'arrive pas à faire plus. Néanmoins, les alliances, dans l'état actuel des choses pour le Front National, elles ont consisté donc en une opération avec Nicolas Dupont-Aignan, qui a montré ses limites, et puis avec qui d'autre ? Avec personne d'autre, alors que peut-être à droite, il y aurait d'autres capacités d'alliance ?
Voilà, à droite pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres capacités d'alliance. Même dans le groupe LR tel qu'il est, celles et ceux qui voudraient éventuellement se rapprocher du Front National se comptent sur les doigts d'une demi-main. Donc il n'y a pas de capacité d'ouverture. Et un des éléments de crise de la Front National, du Front National qui s'exprimera dans le prochain congrès, c'est qu'il soit sur la ligne sociale ou qu'il soit sur la ligne ultra-conservatrice, eh bien pour l'instant, il n'y a pas de débouché politique.
Hélène Beck-Mézian.
Oui, il faut quand même rappeler effectivement que le Front National est freiné par son incapacité à faire des alliances, mais il est aussi freiné en ce qui concerne les élections législatives par le système électoral, par le système majoritaire qui effectivement fait de fait qu'un parti qui fait 30% à la présidentielle se retrouve avec 8 députés.
Le fait néanmoins que Marine Le Pen soit à l'Assemblée nationale et qu'il va y avoir donc des chefs de parti à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, on a entendu Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, est-ce que cela peut modifier à la fois le rôle de l'Assemblée nationale, en tout cas sur le plan médiatique ?
Sur le plan médiatique, surtout concernant Marine Le Pen, puisqu'elle n'a pas de groupe, l'Assemblée est constituée autour de ces groupes. C'est comme ça que se passe la distribution des questions au gouvernement, la possibilité de déposer des propositions de loi, d'avoir son mot à dire sur l'ordre du jour, toutes ces choses-là sur lesquelles Marine Le Pen ne pourra pas intervenir. Donc, il est certain que là où elle interviendra, elle compensera cela par une présence accrue dans la salle des quatre colonnes, par une bataille médiatique, et tandis que Jean-Luc Mélenchon probablement s'exprimera beaucoup plus dans l'hémicycle, en tant que président de groupe, ce qu'il sera probablement, il aura beaucoup plus de temps de parole, beaucoup plus de possibilités. On peut imaginer que les questions au gouvernement qui seront distribuées aux députés de la France Insoumise reviennent plus souvent à Jean-Luc Mélenchon qu'aux autres députés. Donc ce ne sera pas le même type de bataille de communication. Il y en a une qui se fera plus dans l'hémicycle et une plus dans la salle des quatre colonnes.
Pascal Perrineau, Jean-Luc Mélenchon et l'avenir de cette gauche-là.
Écoutez, l'avenir n'est pas négligeable. On l'a déjà vu d'ailleurs au second tour des élections législatives. La performance de la France insoumise et de son allié entre guillemets communiste n'est pas tout à fait négligeable. Et si les premières mesures de réforme économique et sociale du gouvernement rencontrent une opposition, on voit bien qui politiquement pourra dans un premier temps en profiter. Le Parti Socialiste est en crise, les LR sont en crise, le Front National ne voit pas très bien de quoi pourrait être fait son avenir. Il reste la gauche de la protestation. Et dans la culture politique française, on l'a vu dans le passé, cette gauche de la protestation est tout à fait capable de récupérer politiquement le mouvement de grogne sociale. Moi, je suis frappé de voir aujourd'hui, dans toutes les enquêtes d'opinion, que la l'aspect politique du macronisme, l'aspect nouveau monde dont on parlait tout à l'heure, est accueilli avec une relative bienveillance dans l'opinion publique, mais dès que vous abordez les dossiers de réforme économique et sociale, et en particulier les dossiers de la réforme du Code du travail, ça n'est pas du tout le même rapport de force. Là, il y a dans l'opinion des doutes, et pas simplement des doutes, il y a déjà de l'opposition. Donc, la radicalité de Jean-Luc Mélenchon est en prise avec ce qui est pour l'instant un mouvement d'opinion. Est-ce que ce mouvement d'opinion deviendra un mouvement social ayant des conséquences politiques? On aura la réponse assez rapidement, dès septembre-octobre.
Hélène Bekmézian.
Sur la crise qui traverse LR, ce qui est assez amusant, si on peut dire, de constater, c'est finalement à quel point le drame a été assez absent de la journée d'hier, alors que la scission en deux groupes a été actée. C'est un petit peu, si vous voulez, comme un couple qui se dispute pendant des années, qui vit sous le même toit, c'est insupportable. Et finalement, quand le divorce est prononcé, c'est presque plus un soulagement, et on peut enfin essayer de construire quelque chose, chacun de son côté. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même type de crise que traverse LR et le PS, et peut-être que LR est en voie de reconstruction, puisque le mot est à la mode.
Sauf que je ne sais pas si je vais continuer à filer votre métaphore, mais lorsqu'un couple se sépare, généralement il ne reste pas sous le même toit, même si le cas existe aujourd'hui. Dans le cas des Républicains, l'idée de demeurer avec un parti unique et deux courants, vous pensez que ça peut tenir longtemps?
Le fait qu'il y ait deux groupes permet quand même
de cohabiter,
de
ça cohabiter, on est d'accord.
Et puis de régler certains problèmes, certaines différences. Leurs différences peuvent s'exprimer par le vote, il y aura moins de frustration, il y aura moins de tensions internes, de luttes intestines. Alors peut-être que du coup la cohabitation, qui sera une colocation, on va dire, sera peut-être moins difficile à vivre.
Voilà, Pascal Perrineau sur la colocation.
Et puis vous savez, la droite est en colocation depuis très longtemps, historiquement. La droite a toujours été traversée de courants pluriels. Et très souvent, ça a été organisé pendant des décennies sous forme de deux sensibilités. Jadis, on parlait du RPR, de l'UDF, du gaullisme et de la droite non gaulliste. Et puis, tout cela a été peu à peu caché par l'entreprise, au début des années 2000, d'unification des droites et du centre dans l'UMP, puis dans les Républicains. Et ce qu'on voit réapparaître, d'une certaine manière, c'est les deux sensibilités de la droite qui réémergent sous forme de deux groupes parlementaires.
Il y aura aussi la question de l'abstention qui va être clé dans les prochaines années, puisque là on parle d'un paysage politique dans lequel plus de 50% des inscrits n'ont pas pris part aux dernières élections législatives. Et il peut y avoir deux effets de ce point de vue. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, qui font partie finalement de ce système parlementaire désormais, qui ont fait leur entrée au sein du Parlement Bourbon et qui apporteront une voix différente par rapport au bipartisme plus ou moins éloquent qu'on voyait jusqu'à présent. Ça peut peut-être rapprocher des gens qui diront bah finalement voilà, ma voix est représentée au sein du Parlement. Ou à l'inverse, si on s'aperçoit que c'est parfaitement inutile et que finalement Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, François Ruffin et quelques autres sont totalement dilués au sein des députés macronistes et que cette chambre revient à une chambre d'enregistrement, ça peut au contraire accroître la défiance vis-à-vis du système politique et parlementaire en l'occurrence et renforcer les mouvements de rue dont on parle déjà.
On a parlé des deux tendances des Républicains, deux tendances au sein du Parti Socialiste, ou en tout cas là aussi, vous avez l'air de considérer que c'est plus Pascal Perrineau, en tout cas là aussi il va falloir, je ne sais pas comment on dit, colouer, ouais. Bref, réaménager la rue de Solferino.
En effet, et le travail est un travail d'ampleur. Vous savez, jadis au PSU, on disait qu'il y avait à peu près autant de courants qu'il y avait de militants. On a l'impression qu'au Parti Socialiste, ça devient le cas. Mais il faut peut-être une dissolution totale de ce courant socialiste avant la recomposition. Il faut véritablement aller au bout de la dissolution et ensuite reconstruire. Mais cela demandera de longues années. Cependant, ce Parti Socialiste continue à avoir un tissu d'élus locaux. On verra si, en effet, des grands rôles nationaux, ils ont tous été décapités, mais on verra si ce parti a, dans une tradition qui était la sienne, du socialisme municipal, une capacité de se reconstruire, mais à partir des périphéries. Mais c'est un travail qui sera un travail de longue haleine.
Hélène Bekmézian, qu'est-ce qui va se passer maintenant à l'Assemblée nationale, sachant qu'il y a un certain nombre de projets de loi qui sont attendus, puisqu'il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a aussi les lois que le politique peut faire. Alors, ce projet de loi antiterroriste et puis ce projet de loi sur le marché du travail qui est très attendu parce que l'on considère que c'est là-dessus qu'il peut y avoir le plus de clivage au sein de la société française.
Oui, bien sûr, c'est un été qui va être très actif pour les parlementaires. Et ce que je disais un petit peu tout à l'heure, il va falloir qu'ils se mettent tout de suite dans le vif du sujet, qu'ils travaillent tout de suite sur le fond du texte, qu'ils se saisissent tout de suite effectivement de sujets compliqués comme le terrorisme, comme la moralisation de la vie publique, comme la loi sur le travail. Et puis, ce qu'il y a avec ces nouveaux députés, ce qui est difficile, c'est de comprendre vraiment dans quel champ d'action on se situe quand on est un député de la majorité. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, quels sont les enjeux des amendements qu'on dépose. Ça va être un été assez, assez risqué, je pense, à l'Assemblée.
Un mot, Pascal Perrineau.
Oui, en effet, l'été va être un été extrêmement dense, mais attention, ensuite, bien au-delà du travail parlementaire, c'est le rapport de force entre le nouveau pouvoir, l'opinion qui va, et les mobilisations éventuellement sociales, qui va être au cœur du destin politique du macronisme dans les mois qui viennent.
Hélène Bekmézian, Pascal Perrineau, vous restez avec nous pour entendre mes amis de la revue des matins avec Zoé Sfèze, Mathieu Conquet et Xavier Delaporte.